7h40 sur France Culture, l'invité des matins jusqu'à 9h est Claude Lanzmann. Bonjour Monsieur Lanzmann.
Bonjour.
Alors vous le savez, je ne vais pas vous le rappeler, mais tout de même un petit retour en arrière. Depuis la rentrée littéraire 2009 et en cette année 2010, des questions nombreuses nous assaillent autour d'une grande figure, la figure de Yann Karski. On sait les débats qui ont surgi à l'origine, un roman de Yannick Enel chez Gallimard qui publie en trois parties différentes façons de raconter l'œuvre de ce résistant polonais et catholique qui a voulu dénoncer notamment la misère de la Pologne et la destruction des Juifs en 1900, dans les années 40 et notamment en 1943 auprès du président Roosevelt, avec une partie dans ce livre, une fiction qui raconte, imagine au fond le sentiment intime de cet homme, Yann Karski, devant le président Roosevelt. On sait la colère que vous avez eue à la lecture tardive de ce livre, Claude Lanzmann, puisqu'il y est, il est en référence, ce Yann Karski de Yannick Enel, à Shoah. Et au fond, vous avez dit, vous avez souhaité rétablir, dites-vous, une vérité en montant, diffusant une partie de l'entretien que vous aviez eu avec Yann Karski en 1979, qui n'était pas montée dans Shoah et que vous livrez aujourd'hui au regard du spectateur. Ce sera ce soir sur Arte à 22h. Je disais, des questions très importantes sont posées à partir de ce qui est considéré comme un débat, considéré comme votre colère, par d'autres comme une polémique, mais beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on savait? Pouvait-on sauver les Juifs? Les Juifs, les Alliés savaient-ils? N'ont-ils rien fait? De nombreuses questions que nous voulons reposer avec vous, mais peut-être, pour commencer, Claude Lanzmann, vous demandez à vous, du coup, quelle vérité, ce soir, allons-nous voir de la bouche même de Yann Karski, interrogé par vous sur cette journée du 28 juillet 43, interrogé par vous en 79?
En 78,
pardon. 78, pardon, oui.
Ben, je répondrai simplement la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le... Je me suis mis en colère parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et de se servir de personnages historiques pour en faire des pantins caricaturaux. C'est exactement ce qu'a fait Yannick Enel dans son livre. Il a fait de Karski un pantin caricatural qui est totalement faux par rapport à ce qu'était le Karski réel, et qu'on verra ce soir. Et il a fait de, il a brossé du président des États-Unis, Roosevelt, un autre portrait qui est tout à fait scandaleux. Enfin, c'est une sorte de culot idéologique, incompréhensible pour moi, mais enfin, il me semble quand même que je comprends, parce que au bout du compte, les jeunes écrivains d'aujourd'hui, pas tous, mais n'ont plus grand-chose à dire à part les histoires éternelles d'amour, de sexe, enfin, etc. Et du même coup, ils n'ont pas une vie très drôle. Il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus d'engagement total, ils s'ennuient. C'est la fin de l'histoire, comme on dit. Et du même coup, ils se jettent voracement sur le siècle précédent, le 20e, et puis ils n'ont rien vécu de ce que nous avons vécu, et pour eux c'est un manque insupportable. Alors ils jouent avec le 20e siècle. Au lieu de le respecter, le siècle est à la fois proche et lointain, ils en font mais véritablement n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Enel. Il y a un mot de Racine dans la préface de Bajazet, major, pour avoir connaître le latin, major et longinquo reverentia, c'est-à-dire le respect, la révérence, croit avec la distance. Là, c'est le contraire. Sous prétexte de distance, ils font n'importe quoi. N'importe quoi avec une histoire qui a été grave et qui a mobiliser ce qu'il y avait de mieux dans l'humanité. Voilà. Alors donc, pour moi, c'était tout à fait insupportable. Et comme je me suis tu pendant longtemps, simplement parce que j'avais refusé de lire ce livre, et parce que je pressentais le pire, quand je l'ai lu, quand j'ai lu surtout le chapitre inventé par lui...
C'est la troisième partie du livre.
Troisième partie, intitulé, qui permet à son livre de s'intituler « Roman ». Je vous dis, oui, brosse Roosevelt, un personnage atteint de post-prandialisme, lubrique, lorgnant les chevilles... d'une secrétaire, enfin bref... C'est...
Ça n'est pas ce que raconte, on l'a vu nous, évidemment, de la version en tout cas, que raconte Yann Karski, filmé par vous à l'occasion de cette grande entreprise de tournage...
Mais c'est pas une version, c'est la vérité.
De choix. Oui, mais bon. Alors attendez, tout de même, Claude Lanzmann, franchement, nous ici, à France Culture, qui plus est dans cette radio, l'idée n'est pas de nous mettre, de diriger en procureur contre les écrivains. On peut saisir ce que peut-être a voulu faire Yannick Enel et comprendre à vous votre colère. Je trouve qu'à partir de ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, en revanche, quand vous parlez de Yannick Enel, vous parlez de la génération au fond de la mienne, de celle qui est aussi, par exemple, est en ce moment dans le studio. Et vous notez en revanche que ce que vous voulez dire, et là peut-être qu'on atteint à une question importante, c'est que vous constatez, vous venez de le dire, qu'on est d'une génération sans doute un peu triste. Et vous dites qu'il faut peut-être se méfier de l'illusion historique. Mais c'est vrai qu'on est une génération qui, au fur et à mesure... L'illusion rétrospective. Mais c'est vrai que c'est une génération, Claude Lanzmann, qui régulièrement remet en doute, en cause, les idéologies. Est-ce que vous pensez que l'erreur d'aujourd'hui... C'est, au fond, après avoir remis en cause les idéologies, le communisme, le stalinisme, c'est de s'attaquer à la question des figures auxquelles on ne s'était pas attaqué jusqu'à présent, auxquelles votre génération n'avait pas fait de procès, que sont les générations des Churchill, Roosevelt et qui sait, De Gaulle.
Écoutez, Churchill est un homme immense, non ? Et Roosevelt aussi, et De Gaulle aussi. Alors, faut pas exagérer. Je ne sais même pas s'il s'attaque à cela. Je crois que c'est ce que je vous ai dit tout.
Mais qu'est-ce que vous entendez par l'illusion rétrospective quand vous dites qu'on est victime d'une illusion rétrospective ?
L'illusion rétrospective, c'est juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Enfin, alors que il y a des épaisseurs de chaque époque. Chaque époque a son épaisseur, son illisibilité, d'une certaine façon. Et dire, par exemple, aujourd'hui, c'est la nouvelle trouvaille tonitruée, c'est une sorte de... C'est le scoop ultime. Les Juifs pouvaient être sauvés. En gros, c'est ça qui est à la racine.
On les a abandonnés. Les alliés de l'Occident ont abandonné la Pologne, ont abandonné les Juifs.
Bah écoutez, mélangeons pas tout. Dans l'histoire de la Pologne, l'Occident n'a pas abandonné la Pologne. L'Occident a déclaré la guerre immédiatement dès que la Pologne a été envahie. Alors, ça veut dire quoi, abandonner la Pologne ? Moi, je pense que, d'abord, quand on dit les Juifs, on dit les Juifs ou on dit des Juifs ? C'est pas du tout pareil. Quel juif, quand, en quelles circonstances, pouvait être sauvé ? Est-ce que les 1 500 000 juifs tombés sous les balles des Einsatzgruppen en Russie, alors que l'armée rouge reculait, se battait devant Moscou ou à Leningrad, qui pouvait sauver ? C'est 1 500 000 malheureux, trompés, qui n'étaient au courant de rien, et qu'on fusillait dans des fosses. Qui pouvait sauver les Juifs de Babillard ? Personne. Et sauf les gens qui étaient sur place, peut-être, c'est arrivé quelquefois. Qui pouvait sauver les Juifs gazés dans les camps d'extermination installés sur le territoire de la Pologne, dans des lieux complètement reculés, secrets, comme Belzec, Sobibor, Treblinka, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, vous savez. Ça a commencé au printemps 1942 et s'était terminé, même Treblinka, c'est plus tard, ça commence en juillet 1942. Et c'était terminé en août ou en octobre 1943. Ils avaient quand même tué pratiquement 2 millions de juifs.
Ce que vous voulez dire, vous?
Non, moi je suis précis.
Oui,
on pouvait sauver.
Voilà, non, mais c'est ça. Vous dites, vous, en préambule du film qu'on voit ce soir, vous lisez un texte, le texte est à l'écran et votre voix le lit, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Vous dites, les juifs d'Europe ne pouvaient pas être sauvés.
C'est ce que je pense profondément. Il ne pouvait pas l'être à partir du moment où Hitler avait déclenché sa guerre. Cette guerre, on peut la considérer, ça a été fait d'ailleurs largement comme une guerre contre les Juifs. Il l'a déclenché aussi pour cela. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Et alors il y a eu des... J'ai expliqué ça, enfin, pendant la période publique, non pas de l'extermination, mais de la persécution. Et il y a en effet les sionistes allemands ont réussi quand même à faire partir en Palestine avec l'accord des nazis, en les payant, parce que l'argent comptait beaucoup pour eux. 22 000 enfants juifs, c'est ce qu'on a appelé l'Aliyat Tanoa. Il y a eu... En 1942, un convoi d'enfants juifs des ghettos de Pologne qui a été échangé contre un convoi d'Allemands du Moyen-Orient qui voulait rejoindre l'Allemagne nazie. Et ces enfants sont arrivés en effet en Palestine. Le premier ambassadeur d'Israël en Égypte, Eliyahu ben Elissa, qui ensuite a été ambassadeur à Paris, en faisait partie, et y a eu des choses comme ça, il y a eu des passeports achetés à prix d'or. Tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, les bombes, bombardement.
On aurait dû bombarder les voies ferrées,
à Auschwitz, ça ne tient pas debout. Il y a de très très nombreux pilotes américains qui refusaient. Quand la question est venue à l'ordre du jour, ils refusaient d'écraser sous leurs bombes des gens qu'en principe, ils devaient sauver. Et la question se pose, la seule question qui se pose, c'est celle des Juifs de Hongrie, parce que ça a commencé très tard, ça a commencé en mai 1944. Mais entre mai et juin, 450 000 Juifs de Hongrie... avait été gazé, il se dépêchait. Mais même là, je ne crois pas que des choses eussent été possibles. Et Roosevelt, à partir de la fin 1943, sur les instances du secrétaire d'État au Trésor, Henry Morgenthau, a créé ce qu'ils appelaient le War Refugee Board. Et le WRB, enfin, était dirigé par des hommes admirables. Je les ai tous connus, qui s'appelaient John Pelley, Roswell McClelland, Josiah Dubois. Mais c'était des hommes d'une grande humanité et en même temps des hauts fonctionnaires du gouvernement américain. Et il y avait des régulations sur la conduite du pays en temps de guerre. À savoir, on n'envoie pas d'argent, or il fallait de l'argent. L'argent pouvait sauver beaucoup plus que les bombes. On ne peut pas envoyer de l'argent en territoire ennemi. C'est assimilable à de la haute trahison. Donc il y a eu... Tout ça a été extraordinairement difficile. Et le War Refugee Board, après l'évasion de Rudolf Verba de Auschwitz, le 7 avril 1944, a plaidé pour... le bombardement des installations de mort à Auschwitz, on n'avait pas ailleurs. Les autres camps n'existaient plus. Et ils ont pesé, ils ont retourné cela, et finalement, il a été conclu que non. Et je pense que toutes les raisons qui militaient pour le non n'étaient pas méprisables.
Claude Lanzmann, invité des matins de France Culture. Ce soir, donc, l'entretien que vous avez eu en 1978 avec Jan Karski, qui raconte notamment son rendez-vous avec Roosevelt le 28 juillet 43, également aussi son entretien avec un juge de la Cour suprême proche de Roosevelt, le juge Félix Frankfurter. Et nous y reviendrons tout à l'heure avec vous. Il y a dans ce film quelque chose qui est effectivement bouleversant. C'est les effets de sidération des uns et des autres. L'effet de sidération de Jan Karski racontant ce qu'il a vu au ghetto de Varsovie à Roosevelt et au juge Frankfurter, sidéré à lui-même, lui disant « Je ne dis pas que vous mentez, mais je ne vous crois pas. Je connais l'humanité, je connais l'homme, ce que vous dites est impossible. » À partir de là, vous posez la question aussi de qu'est-ce que veut dire savoir, qu'est-ce que veut dire connaître. Nous y revenons tout à l'heure avec vous, Claude Lanzmann.